OK, 17h pile, la programmation régulière de l'émission est chambardée parce que le gouvernement qui tient généralement ses points de presse un peu plus tôt traditionnellement, là, vers 13h, 13h30, ben là, on semble y aller pour une nouvelle habitude, 17h, 17h30. Et là, à 17h, on attend maintenant le point de presse de François Legault, Christian Dubé, Geneviève Guilbeault. Il va être question des nouveaux pouvoirs ou en tout cas de nouvelles directives données aux policiers pour pouvoir sanctionner les récalcitrants qui sont chez eux et qui sont dans leur maison. On sait que c'est difficile, hein? C'est un des fondements de la démocratie. L'État ne peut pas rentrer chez vous n'importe comment. Donc, à ceux qui rêveraient de voir la police entrer pour donner des tickets, comme on dit, à des gens qui font des rassemblements qui sont illégaux et qui sont dangereux au point de vue de la santé, de la transmission du virus, ben écoutez, dites-vous que peut-être que le remède que vous souhaitez, Philippe, est plus grand que le mal. On comprend qu'il y a un virus qu'il faut combattre, mais la police qui rentre des maisons, d'habitude, c'est le fait de dictature.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai hâte de voir les explications de M. Legault, comment il va justifier tout ça. Ça va être un défi pour lui. Mais j'ai hâte aussi de voir s'il reviendra sur les choix que le gouvernement a fait en termes de confinement. Certaines activités, on sait que le milieu culturel écope beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de récriminations à ce sujet-là. Alors, est-ce qu'il va revenir sur ce sujet-là? Parce que pour lui, là, gérer la communication à l'heure actuelle, c'est très important. Il faut qu'il y ait une adhésion à ce qu'il annonce. Alors, s'il n'y a pas d'adhésion parce qu'il y a trop de ressentiment, ça va devenir plus difficile.
Et Philippe, avant d'aller plus loin, on est en attente du point de presse. J'ai dit que c'était Christian Dubé. Non, le trio est composé de François Legault, Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique, évidemment, c'est son dossier, et Horacio Arruda. Plus tôt à l'émission, on a parlé avec une professeure de l'Université de Montréal de l'École de santé publique parce qu'il y a quand même un mystère Québec présentement.
Oui. Hein?
Et on peut avoir là toutes les stratégies de communication que l'on souhaite. On peut se ramener à la fameuse semaine de relâche au printemps, au mois de mars, qui est mal tombée pour le Québec. Tout ça est vrai. Et comment se fait-il que maintenant, dans la deuxième vague, 6 mois plus tard, comment se fait-il que le Québec, à chaque jour environ, là, on va y aller grosso modo, Philippe, là, on est à la moitié des cas quotidiens de nouveaux cas recensés de COVID au Canada. On n'est pas la moitié de la population. On est à peu près quoi, entre 20 et 25 % le quart peut-être, soyons généreux. C'est pas normal qu'on ait ce taux d'infection qui est beaucoup plus grand que celui de nos voisins ontariens, par exemple.
Oui, tout à fait. Encore 838 nouveaux cas aujourd'hui et 15 hospitalisations supplémentaires. Remarque, c'est une petite amélioration par rapport à la veille où on en avait eu 35. Tu te souviens, ça a été un choc hier là, quand on a appris que c'était 35 hospitalisations de plus. Bon, le chiffre est un peu moins alarmant aujourd'hui, mais la tendance est nettement à la hausse.
Oui, et tantôt, avec Catherine, on a interviewé dans le premier bloc à 15h35, Michel Barrette, l'humoriste qui était en spectacle en Abitibi quand il a appris que Montréal et Québec tombaient en zone rouge. Évidemment, pour lui, comme pour plein d'autres artistes qui avaient recommencé à performer, extrêmement difficile. Et Michel en a parlé. Il se demande pourquoi. Beaucoup d'artistes se demandent pourquoi. Pourquoi on ferme les musées, pourquoi on ferme les théâtres alors qu'il n'y a pas eu d'éclosion dans ces endroits-là et qu'on ne va pas fermer les commerces, par exemple.
Je ne pense pas que le gouvernement a encore réussi opération de communication à ce sujet-là. Il y a beaucoup de questions qui sont encore posées.
En toute justice, en même temps, Philippe, il y a beaucoup de gouvernements partout dans le monde qui ont eu à expliquer des contradictions semblables. Il faut se rappeler aussi qu'on avance à tâtons. Geneviève Guilbeault est déjà sur la tribune avec son masque. Oui, évidemment, ils sont toujours séparés par des plexiglas. Et on a vu le premier ministre là, qui marchait vers la tribune, donc flanqué de Horacio Arruda qui arrive. On va bientôt leur céder l'antenne. Ça va durer quoi? 15-20 minutes à peu près ça. Après, on va revenir avec M. Luc Ferrandez, et il y aura aussi du commentaire de M. McSween plus tard. On cède l'antenne immédiatement à François Legault.
Santé publique, Dr. Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous.
Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir de proche, même s'il y a un plexiglas, notre vice-premier ministre. On ne s'est pas vu depuis le début de la pandémie. On a pris toutes les mesures nécessaires. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je voudrais revenir sur ce qui est arrivé à l'hôpital de Joliette avec Mme Echakan, une femme à Tikamek. J'ai été, comme tous les Québécois, choqué de voir la vidéo, d'entendre les propos racistes à l'égard de Mme Echakan. Je veux vous dire qu'il y a une infirmière qui a été congédiée, il y a deux enquêtes qui sont en cours, Puis comme vous le savez, j'ai déjà donné un mandat à Nadine Giraud et Lionel Carman. Ils doivent, dans les prochaines semaines, me remettre une liste de recommandations, puis on va agir pour lutter contre le racisme. C'est totalement inacceptable, ce qu'on a vu là. Personne n'aime ça. Maintenant, je veux revenir sur la deuxième vague de la pandémie. D'abord, deux précisions. Suite à une analyse de la santé publique, qu'on nous a recommandé que dans Chaudière-Appalaches, il y a trois MRC qui passent de zone rouge à zone orange. Donc, on parle des MRC des Etchemins, Montmagny et Lillet. Donc, évidemment, ça a des conséquences sur les gestes qui seront posés à partir de minuit ce soir. Autre précision concernant les bibliothèques publiques, les Québécois vont pouvoir aller chercher des livres, emprunter des livres avec un masque et en gardant le 2 mètres, mais il n'y aura pas de rassemblement dans les bibliothèques publiques. Je reviens sur la situation de la pandémie. On le voit, le nombre de cas continue d'augmenter, le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter. La situation est inquiétante et plus que jamais, je vais demander encore aux Québécois, au moins pour un mois, de faire des sacrifices parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. On veut aussi garder nos enfants dans les écoles, puis on veut protéger aussi notre réseau de la santé. Bon, j'ai entendu puis lu beaucoup de commentaires depuis hier sur les décisions qu'on a annoncées lundi. Les gens se demandent pourquoi on a fermé certaines activités puis pas d'autres. D'abord, je veux être bien clair, là, il n'y a pas un jugement de valeur qui a été posé, à savoir est-ce qu'on punit les activités qui ont fait moins d'efforts. C'est pas ça le critère qui a été utilisé. Ce qu'on veut, là, puis on peut débattre longtemps de savoir est-ce qu'il y a des activités qui sont plus ou moins essentielles ou plus ou moins non essentielles. Le but, c'est de choisir un certain nombre d'activités et de réduire les contacts. Puis pour être bien franc avec vous, c'est pas impossible que dans les prochaines semaines, on ajoute à ces activités-là. Donc, il y a actuellement une urgence d'agir. On a choisi un certain nombre d'activités. C'est pas un jugement de valeur. Ça veut pas dire qu'il y a des activités qui sont plus importantes que d'autres avec la santé publique. Donc, on établit une certaine liste. Puis, c'est pas impossible que des activités s'ajoutent à cette liste-là. Bon, maintenant, c'est pour ça que je suis avec la vice-première ministre et la ministre de la Sécurité publique. On a eu un conseil des ministres aujourd'hui pour se parler de comment on va faire respecter les consignes. Parce qu'on va se dire la vérité, à cause de l'insouciance ou la négligence d'une minorité, on se retrouve dans une situation là où il y a beaucoup de monde qui sont affectés et il y a des vies qui sont en jeu. Puis là, je veux faire un parallèle là, avec certaines consignes comme les lumières rouges. Les gens savent, s'ils passent sur une lumière rouge, là, peuvent avoir une amende parce qu'ils mettent la vie des autres en danger. Puis c'est pas une question de liberté. Là. Il n'y a pas personne au Québec qui va se dire « Hey, ça n'a pas de bon sens qu'on me donne une amende parce que je suis passé sur la lumière rouge. » Ça vient toucher la sécurité, même la vie des autres personnes. Donc, c'est la même chose avec la COVID. Les personnes qui ne respectent pas les consignes, ils mettent en danger la vie des autres personnes. Donc, revenons sur les consignes pour vous expliquer comment on va les appliquer. D'abord, commençons par les maisons. À partir de minuit ce soir, dans les zones rouges, ça ne sera pas possible de recevoir des invités, sauf quelques exceptions, comme un proche aidant, une gardienne, un plombier. Donc, ce genre-là de services essentiels que des personnes doivent recevoir dans leur maison. Mais soyons bien clairs, là. Quelqu'un qui fait un party dans sa maison, bien, il est en contravention de la loi et il met la vie de d'autres personnes en danger. Donc, quand ça arrive, les policiers vont pouvoir leur donner un constat d'infraction. Comment ça va se passer? Bon, d'abord, il y a des gens qui vont sûrement collaborer et accepter d'ouvrir la porte. Mais si la personne refuse de collaborer, les policiers vont pouvoir obtenir un télémandat rapidement d'un juge, là, ça veut dire le soir même, pour être capable de donner un constat d'infraction. Je veux être bien clair, là. Les policiers ne vont pas commencer à cogner au hasard à toutes les portes du Québec. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. On va le faire, puis les policiers vont le faire seulement s'il y a des motifs de croire que la loi n'est pas respectée. Puis encore là, la vice-première ministre avec le DPCP, avec les corps policiers, bien, c'est assuré qu'on va pouvoir avoir des constats portatifs pour être capable de donner des contraventions rapidement. Maintenant, les manifestations. Je l'ai dit lundi, à partir de minuit ce soir, les manifestations ou les manifestants vont devoir porter un masque. C'est pas vrai qu'on va demander à des Québécois de faire des sacrifices, puis que pendant ce temps-là, il y a des personnes qui, en se réunissant dans une manifestation, vont risquer qu'il y ait une grosse éclosion qui pourrait causer des torts à plusieurs personnes dans la société. Donc, ces personnes-là vont pouvoir recevoir des contraventions de 1 000 Même chose pour les maisons, même chose pour les manifestations, 1 000 par personne. Puis encore là, les policiers vont avoir des constats portatifs pour être capables de donner rapidement des contraventions. Il y a aussi les rassemblements dans les parcs. D'abord, je vous rappelle que au moment où on se parle, donc pas à minuit, au moment où on se parle, dans les zones oranges, comme Montréal, les rassemblements sont limités à 25 personnes. À partir de minuit, ça va être tous les rassemblements qui vont être interdits. Donc, ce qu'on a demandé aux policiers, c'est d'abord de disperser les gens, donc de les inviter à cesser d'être rassemblés. Mais si il y a des manifestants qui refusent de collaborer, bien, ils vont pouvoir aussi recevoir une contravention. Bon. Une autre précision importante. Parce qu'on a commencé à entendre ça, les personnes qui habitent dans une zone rouge ne peuvent pas aller dans un restaurant dans la zone aux côtés qui est orange. On ne veut pas mettre le fardeau sur les restaurateurs, mais on veut juste dire à ces personnes-là, ce qui est illégal dans la zone rouge est illégal si vous allez dans une autre zone. Donc ça, c'est très clair. Peut-être une autre précision aussi, c'est le temps de la chasse. Donc il y a des personnes qui sont dans des zones rouges qui vont aller dans les prochains jours peut-être dans leur camp de chasse. C'est correct. Mais là, ce qui est important, c'est de ne pas aller faire l'épicerie dans la zone orange ou la zone jaune où est leur camp de chasse, qui arrive avec leur nourriture, là, un peu comme on le faisait ce printemps. Je termine avec mes remerciements du jour. Ça va être pour les policiers et les policières. Ça ne sera pas facile les prochaines semaines pour les policiers et les policières. Mais on a besoin de nos policiers, nos policières, pour faire respecter la loi et pour nous protéger. Donc, je vous dis un énorme merci aux policiers et aux policières. Maintenant, quelques mots en anglais. Good
evening. OK, vous venez d'entendre le premier ministre Legault. Conférence de presse, je dirais, assez solennelle, hein, avec Geneviève Guilbeault qui n'a pas encore parlé, Dr. Arruda qui n'a pas encore parlé. Et le thème, c'est comment on va appliquer, disons, le bâton. Parce qu'on est allé beaucoup, Philippe, on a demandé aux gens de respecter les règles, mais on sait, il y a des personnes qui ne respectent pas les règles, notamment pour ce qui est des rassemblements dans les maisons. M. Legault donne un aperçu de ce qui va être donné comme pouvoir aux policiers. Il s'agit d'un télémandat. Les policiers ne peuvent pas rentrer chez vous à moins d'un cas d'extrême urgence. Il y a un appel au 911, ils vont casser la porte, ils vont rentrer. Et on posera des questions après, évidemment. Dans un cas de party, si vous appelez parce qu'il y a 22 personnes chez vos voisins, ils ne peuvent pas faire ça. Mais avec un télémandat, c'est-à-dire demander le mandat à distance d'un juge, expliquer pourquoi on voudrait rentrer chez les personnes, ça va pouvoir se faire. Et il y aura des amendes jusqu'à 1 000. Les manifestations, on sait qu'il y a des manifestations anti-masques. Bien, paradoxe, on demande aux gens de porter un masque pour manifester contre le masque. Et là-dessus aussi, ce que M. Legault a dit, écoutez, c'est pas vrai qu'on va demander des sacrifices aux Québécois et qu'on va laisser certains manifestants ne pas porter de masque et risquer des éclosions. Donc, ces gens-là vont risquer des amendes de 1 000.
Oui, tout à fait. Puis j'ai aussi noté, Patrick, l'image qu'il a utilisée pour essayer d'enrayer l'argument là, que ces mesures-là atteignent nos libertés individuelles. Alors, il a donné le cas très simple d'un feu de circulation. Il dit, au Québec, là, on sait très bien qu'on peut pas, en auto, traverser un feu rouge. Pourquoi? Parce qu'on met la vie des autres en danger si on agit ainsi. Puis il y a personne qui va dire, ben en m'obligeant à m'arrêter à un feu rouge, le gouvernement brime ma liberté. Ben, il dit, c'est exactement la même chose pour une pandémie. On veut que protéger tout le monde, puis si vous ne respectez pas les consignes, bien, vous mettez la vie des autres en danger comme si vous traversiez impunément un feu rouge. Alors, j'ai trouvé l'image intéressante. C'est une image simple, facile à comprendre, mais qui illustre jusqu'à quel point le gouvernement là, doit absolument multiplier les efforts pour bien faire comprendre le sens de sa démarche.
On me dit que Luc Ferrandez est là. Luc, tu vas sûrement être interrompu par la reprise de la conférence de presse en français, mais une première réaction?
Juste une précision avant la réaction, c'est que l'amende est de 1 000 mais les frais administratifs sont de 546 $, fait que ça fait un total de 1546.
OK. Comme au printemps, là.
Oui, c'est ça, c'est la même chose, c'est les fameux constats portatifs, là. Donc, c'est pas un truc où tu passes en cour municipale, puis après ça t'est envoyé 6 mois plus tard, tu le reçois sur le champ. Donc, c'est... en vertu du même article de loi qui avait été utilisé au printemps.
OK.
Maintenant, la réaction, j'ai hâte d'entendre les détails sur les manifestations parce que c'est une amende individuelle. Ça veut dire qu'il faut encercler le groupe, qu'il faut les faire attendre au sol, comme ça se passait, par exemple, pendant le printemps érable, et après ça, leur donner des contraventions individuelles.
Luc, il faut que je t'interrompe. On va aller à la période de questions en français. Reste là, on va revenir.
L'exercice du télémandat, je crois que c'est déjà possible à l'heure actuelle de procéder par télémandat. Bon. Est-ce que là-dessus, est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui sont apportés, le DPCP, pour assurer l'exercice de ça? Est-ce que je dois comprendre que ces pouvoirs-là ne seront exercés que dans les zones rouges et que d'autres types de party, mettons, dans les zones oranges, ça ne s'applique pas, là? Est-ce qu'on peut préciser la chose?
Oui, bien, sur le télémandat, effectivement, ça existait déjà, le télémandat, là. Puis d'ailleurs, on en a parlé beaucoup, la fameuse question, là, est-ce qu'on va entrer dans les maisons sans mandat? Puis je le répète ce soir, non, il n'y a rien qui change à cet égard. On doit avoir soit le consentement de la personne qui habite là ou qui loue l'endroit, ou un mandat à défaut d'avoir le consentement. Donc ça, il n'y a rien qui change là-dessus. Je veux être très, 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 très claire. Maintenant, la nouvelle chose, et je l'ai dit souvent, moi, ce sur quoi je travaillais, c'était de pouvoir doter nos policiers de nouveaux outils de travail, en l'occurrence les constats portatifs, qui se rapprochent beaucoup plus d'une contravention directe, immédiate et beaucoup plus dissuasive à notre sens qu'un rapport d'infraction. Alors, que ce soit en zone jaune, orange ou rouge, ils pourront désormais donner ces constats d'infraction s'il constate, bien sûr, l'infraction. Alors là, soit il y a deux cas de figure. En fait, le policier peut arriver à la suite d'un signalement ou parce que, je ne sais pas, il se promène dans la rue puis il y a quelqu'un qui lui dit il y a un gros party ou bref, il y a un signalement avec tranquillité publique ou autre motif. Il arrive à un endroit, cogne à la porte. Comme disait le premier ministre, la plupart des gens vont être portés à ouvrir la porte et à collaborer un minimum. Et là, il va pouvoir constater si oui ou non, il y a une infraction dans la maison. S'il y en a une, va amener les gens à se conformer. Donc, va dire, vous devez quitter l'endroit, vous n'avez pas le droit de vous rassembler. Là, ça dépend des zones. Là, en zone jaune, orange ou rouge, on passe de 10 personnes à 6 personnes permises à aucune personne permise en zone rouge, donc selon la zone où on se trouve. Et on s'attend à ce que dans la majorité des cas, les gens vont se conformer. Là. Les gens vont quitter, puis donc l'objectif va être atteint, les gens vont s'être conformés, puis on va éliminer le risque qu'on encourt de propagation du virus. L'objectif, c'est pas de donner autant de contraventions que possible, c'est évidemment d'amener les gens à se conformer aux règles. Donc, s'ils se conforment, n'auront pas de constat, mais à défaut de se conformer, vont pouvoir avoir un constat. Et s'il y a vraiment un refus de collaborer, bien là, le policier peut aller dans sa voiture et demander le télémandat. Et une fois qu'il a le télémandat, peut intervenir et, s'il y a infraction, encore une fois, donner le constat portatif.
Okay.
L'amende étant toujours de 1 000 sur les constats portatifs.
Bon. Monsieur le Premier ministre, vous donnez quand même les responsabilités que vous confiez aux policiers. Ça pourrait être quand même assez compliqué à appliquer, entre autres lorsque vous apportez les distinctions sur une personne qui est en zone rouge, qui se déplace en zone orange, comment elle doit se comporter comme si elle se trouvait en zone rouge. Est-ce que vous avez parlé, eu des échanges avec les chefs de police pour vous assurer de la clarté des règles qui sont mises en place, et est-ce que les corps de police vous ont dit que c'était suffisamment clair pour être appliqué?
Oui, plusieurs échanges avec les corps de police, bien entendu, en particulier les grands corps de police qui couvrent une bonne partie du territoire, surtout le territoire rouge. Et mais là, le décret vient juste d'être adopté. Là, on a eu un conseil des ministres tout juste avant de venir vous rencontrer. Donc, on aura assurément d'autres conversations pour s'assurer de la clarté des outils et de la compréhension commune du décret. Mais l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'une personne ne puisse pas faire dans une autre région, ce qu'elle ne peut faire dans sa région de résidence. Donc, moi, j'habite ici à Québec, dans le rouge. Je peux pas aller me rassembler. J'ai pas le droit d'avoir des gens chez moi. Je peux pas aller me rassembler avec des gens dans une zone orange ou jaune parce que mes interdictions se transposent et me suivent où que je sois. Donc, si une personne transgresse ce principe-là, elle s'expose, elle aussi, oui, à des amendes, passible d'une amende de 1 000 à 6 000 comme c'est toujours prévu dans la loi. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de multiplier les contraventions. Là, c'est vraiment juste de faire comprendre aux gens, on veut les décourager d'aller dans d'autres régions faire ce qu'ils ne peuvent faire chez eux. Quand on habite dans le rouge, on essaie de rester dans le rouge, on essaie de ne pas aller exposer les gens des autres régions et on évite de devenir un risque là, ou un vecteur potentiel de contagion ailleurs que chez soi.
Merci. Patrick Bellerose, le Journal de Québec.
Oui, bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui a changé avec les manifestations anti-masques? Il y a 2 semaines, vous disiez que c'est pas nécessairement un vecteur de propagation et je veux pas nécessairement non plus faire des martyrs en distribuant des amendes comme ça. Donc, qu'est-ce qui a changé qui fait que vous allez imposer des amendes aux anti-masques qui portent pas le masque?
Bien, on fait aussi de la prévention. C'est la même chose pour les activités là, où on a fermé les activités, que ce soit les salles de spectacle, les restaurants, les bars. C'est pas nécessairement que dans chaque endroit, il y a eu des éclosions, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter les contacts. Donc là, on a choisi un certain nombre d'activités, puis ça inclut les manifestations. Je pense que dans les manifestations, quand il y a des centaines de personnes qui sont proches les unes des autres, il y a un risque réel de contagion. Donc, on veut limiter les contacts et mettre des mesures comme porter un masque dans une manifestation. Donc, continue de permettre ce que la démocratie nous demande, c'est-à-dire les gens qui sont contre une mesure du gouvernement peuvent manifester, mais ils doivent le faire en respectant la consigne de porter un masque.
Concrètement, ça me semble difficile, s'il y a une manifestation de plusieurs milliers de personnes, d'arrêter chaque manifestant, demander les papiers et distribuer des amendes. Vous ne craignez pas de galvaniser ces manifestations-là? Vous ne craignez pas que ce soit difficile pour les policiers d'appliquer la mesure?
Bien, je le disais tantôt, là, ça ne sera pas facile pour les policiers. Mais en même temps, je peux vous dire que je pense qu'on va avoir l'appui, puis les policiers vont avoir l'appui des Québécois. On ne peut pas d'un côté demander des sacrifices aux Québécois, de dire « j'invite pas d'amis à la maison », mais il y a des centaines de personnes qui manifestent pas de masque. À un moment donné, il y a une question de cohérence, puis il y a une question d'exiger la même chose à tout le monde.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la Vice-Première ministre, Dr. Arruda. Justement, sur les manifestations, est-ce que vous craignez pas qu'il y ait des débordements qui mènent à l'utilisation de moyens plus coercitifs pour disperser, par exemple, ces manifestations-là? On sait que les gens qui participent surtout les anti-masques. Il faut s'attendre à ce qu'ils ne portent pas de masque dans leur manifestation. Là, ça irait un peu à l'encontre du message qu'ils essaient de passer. Est-ce que les policiers sont prêts à se rendre jusqu'à l'utilisation de la force, des gaz lacrymogènes, des outils qui sont à leur disposition pour disperser les foules?
Ben, écoutez, il y a des gens qui nous demandaient de poser le geste qu'on pose aujourd'hui, il y a quelques semaines. On a essayé d'abord de prendre le temps, puis la vice-première ministre l'a fait, de rencontrer les corps policiers. On sait qu'on se souvient ce qui est arrivé avec les étudiants à Montréal. On veut aussi, on voulait être capable de reporter ce moment-là le plus longtemps possible. Mais actuellement, la situation est vraiment critique, là. Il y a des vies qui sont en jeu. Notre réseau de l'éducation est en péril. Notre réseau de la santé est en péril. Donc là, on est rendu vraiment à l'étape de dire, là, faut faire quelque chose, il faut agir. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui mettent la vie des autres en danger, bien là, ils vont comprendre.
Mais je comprends bien que vous êtes prêt à assumer le recours.
Écoute,
par exemple, à l'anti-émeute ou
C'est pas ce qu'on souhaite, là. Moi,
je comprends, mais je comprends que c'est pas ce que vous souhaitez, ça. Je pense pas qu'il y ait aucun. Que même les policiers souhaitent ça non plus, là. Mais vous êtes prêt à assumer l'utilisation de ces moyens-là advenant à la nécessité?
Oui, bien, il y a une gradation, là, comme ailleurs. En ce moment, ce qu'on annonce, c'est une question aussi de moyens. Il faut donner à nos policiers les moyens concrets d'intervenir dans les décrets. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le port du masque obligatoire. Donc ça, c'est une première étape qui, à notre sens, encore une fois, va atteindre un peu l'objectif de prévenir la contagion, puis d'améliorer la situation par rapport à une manifestation où les gens sont pas à 2 mètres, portent pas de masque, avec des affiches câlins gratuits, puis des choses comme ça. Là, on a une étape de plus, qui est le port du masque obligatoire, avec les constats portatifs qui viennent avec. Ça, c'est très important aussi. Donc, on pense que ça pourra en décourager une partie. Tu sais, il y a des gens, parce que là, veut pas avoir une contravention de 1 000 là, puis il y a des frais qui viennent avec ça, fait que ça finit par tourner autour de 1 500, 1 600. Quand même, ça pourrait décourager certains. Tu sais, c'est pas rien, là, 1 500 net. Donc, ça pourra en décourager certains. Mais comme le dit le premier ministre, là, on peut plus tolérer comme ça que une minorité d'insouciants compromette les efforts d'une majorité de gens. Puis, ultimement, si on devait recourir à d'autres moyens, on n'en est pas là. Pour l'instant, on franchit une première étape de mesures plus répressives pour encadrer, de mesures d'encadrement, j'appellerais ça de mesures d'encadrement des manifestations. Mais, ultimement, s'il faut franchir d'autres étapes, bien, on avisera en temps et lieu. Puis, si on doit poser certaines actions, on le fera. Il y a, entre autres, la santé publique qui dispose de certains pouvoirs aussi par rapport à tout ce qui peut présenter une menace pour la santé publique. Donc, on agira en temps et lieu. Mais aujourd'hui, on franchit une première étape.
Claudie Côté, TVA Nouvelles.
Bonsoir. Avec les nouveaux moyens que vous donnez aux policiers, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui craignent justement un abus ou un excès de zèle de leur part?
On fait confiance à nos policiers là, pour apprécier les situations puis intervenir selon justement la situation. On parle de constat pour le non-port du masque. L'avantage, puis quand je parlais de donner des outils de travail concrets puis clairs pour nos policiers, l'avantage, c'est que c'est très facile à identifier. Une personne porte son masque ou non, là. Donc il n'y a pas vraiment d'excuse possible. Soit tu portes ton masque, soit tu ne le portes pas. Donc, à partir du moment où tu ne le portes pas, encore une fois, le policier va probablement faire une intervention préventive, rappeler à la personne qu'elle doit porter son masque. Si la personne met son masque, il y a fort à parier que ça va s'arrêter là et va continuer son chemin. Mais si elle refuse obstinément, il y a une altercation ou je ne sais trop, ou refuse de s'identifier ou autre, bien là, à ce moment-là, on tombe dans l'intervention policière que j'appellerais standard et les policiers sont tout à fait habitués de gérer ça.
Monsieur Legault, vous avez parlé du réseau d'éducation qui est en péril. Pourquoi ne pas avoir resserré là, les mesures dans les écoles en zone rouge, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de cas dans les écoles en ce moment?
Bien, c'est pas exclu pour l'avenir. Mais actuellement, bon, puis je laisserai peut-être le docteur Arruda compléter, c'est pas là je sais que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y avait beaucoup de transmission dans les écoles, là. Pas certain que c'est aussi clair que ça. Et pour nous autres, c'est la dernière chose, en tout cas pour moi, c'est la dernière chose que je veux faire, de fermer des écoles. Déjà, on a à peu près 2% des classes qui sont fermées au Québec. Bon, Le bon côté, c'est qu'il y en a 98 % qui vont à l'école, mais le nombre de classes fermées augmente à chaque jour. Donc, il y a des enfants à chaque jour de plus qui ne peuvent pas aller à l'école. Puis ça, ça me fait mal au cœur de voir ça. Mais peut-être vous pouvez parler des écoles.
Bien, écoutez, on suit la situation de très près. Là, comme on l'a dit, la transmission, elle est très communautaire. Elle est pénétrée différents milieux, les résidences de personnes âgées, les milieux scolaires. On voit, bien entendu, c'est normal avec ça, que de la transmission, il peut y avoir de la transmission au niveau scolaire, mais elle n'est pas majeure encore. Mais on surveille de très près la situation. Et quand on va voir, à un moment donné, parce qu'il y a des avantages et inconvénients à intervenir, à empêcher les enfants d'aller à l'école, il ne faut pas se l'oublier, là, ce que même certains pédiatres nous recommandaient antérieurement. Je pense que là, la situation est assez complexe. Hein. Les gens ont tendance à trouver, il y a une cause qui fait que ça augmente. Je pense que c'est une série de facteurs. Là, on essaie de frapper là où il y a probablement le plus de chances, mais on est en évaluation continue de la situation scolaire. On est en discussion avec le ministère de l'Éducation. S'il y a des mesures supplémentaires à ajouter, on va le faire. Mais toujours en balançant cet équilibre entre l'accès à l'éducation pour ceux qui en ont véritablement besoin, surtout là, parce que c'est pas tout le monde qui fonctionne bien en télétravail, en téléenseignement ou autre. Fait que, c'est aussi un élément très protecteur, le milieu scolaire, pour plein d'autres facteurs que ceux-là. Mais bien entendu, les rassemblements, tu sais, les adolescents qui se retrouvent ensemble, il faut falloir qu'on voit comment on peut gérer aussi la période pré, pendant l'école, puis après l'école tout de suite.
Olivier Bossé, Le Soleil.
Bonsoir. Madame Guilbeault, est-ce que ces constats portatifs-là s'appliquent à n'importe les contraventions de n'importe quelle infraction ou c'est juste les règles de santé publique?
Les constats portatifs, ce sera pour les rassemblements dans les maisons privées, pour le non-port du masque dans les manifestations, pour aussi le non-port du masque dans les lieux publics fermés. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, 1 mois, là, on avait annoncé aussi le constat portatif pour les policiers, pour ceux qui refusent de porter le masque dans les lieux publics fermés. Et il existait aussi déjà le constat pour une infraction dont on entend moins parler, là, mais qui existe quand même. Là, c'est pour une personne qui consommerait de l'alcool sans être assis dans un bar. Sans être assise, plutôt dans un bar, évidemment, dehors des zones rouges, puisque les bars vont être fermés dans les zones rouges.
Donc, ça ne permet pas aux policiers de vérifier les autres infractions
pour les autres à la maison. Infractions, à la base, les policiers peuvent toujours utiliser le rapport d'infraction. Ça, c'est important de le rappeler. Là. Pour toute infraction à la santé publique, un policier peut remettre un rapport d'infraction générale, incluant celles pour lesquelles il y a un constat portatif. Donc, qui que ce soit qui commet quelque infraction que ce soit peut recevoir en tout temps un rapport d'infraction générale. Et ça, c'est le DPCP qui va déterminer l'amende qui va être dessus. L'amende va être entre 1 000 et 6 000 donc ça peut être quand même salé. Mais pour les 4 cas que je vous ai mentionnés, on dote nos policiers de l'outil supplémentaire et un petit peu plus commode pour eux et plus dissuasif pour la personne en infraction que sont les constats portatifs.
Monsieur Legault, avec les... toutes les informations, les avertissements.
OK, on va interrompre le point de presse. Vous avez entendu là, plusieurs questions. Si vous avez entendu le début de la période de questions, si vous venez de vous joindre à nous, donc c'est la conférence de presse de François Legault, flanquée de Horacio Arruda et surtout de Geneviève Guilbeault, ministre de la Santé publique. C'est un point de presse, Philippe, de sécurité publique, pardon, parce que là, on parle d'amende
oui.
pour les récalcitrants. Donc, on a détaillé comment, dans quelle situation on pourrait donner des amendes et on a aussi beaucoup parlé des manifestations. On sait qu'il y a des manifestants anti-masques. On leur demande de porter le masque. On devine que ces gens-là qui sont dans l'opposition vont pas porter le masque. Qu'est-ce qui pourrait leur arriver?
Bien, il pourrait leur arriver qu'ils seraient interceptés par les policiers et susceptibles de recevoir une amende de 1 000 plus les frais. Alors, comme Luc Ferrandez le disait tantôt, ça donne un total de 1 546. On a même demandé au premier ministre s'il voyait éventuellement les policiers utiliser des gaz lacrymogènes pour mettre fin à des manifestations qui ne respecteraient pas le port du masque. Il a dit, bien, écoutez, je ne veux pas aller là pour l'instant, mais il y a des gradations de mesures qui peuvent être faites. Je retiens 2 autres choses de la période des questions. Patrick, d'abord, la ministre Guilbeault a expliqué expliqué que le but, ce n'était pas de multiplier les contraventions. Elle a même dit que si des policiers entraient dans une maison, que les gens, bon, quand les policiers frappent à la porte pour voir s'il y a plus de monde, les gens, les résidents acceptent qu'ils rentrent, s'ils constatent une infraction, ils ne remettraient pas automatiquement une amende. Il y aurait comme un avertissement. Et elle dit, le but, c'est pas de donner d'étiquette à tout le monde, si je peux résumer. Et l'autre point, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, c'est, on sait que le premier ministre Legault a souvent répété au cours des derniers jours que notre réseau de la santé était en péril. Il a utilisé exactement la même expression pour notre réseau de l'éducation. Il a dit le réseau de l'éducation est en péril et la démonstration, c'est qu'un petit peu plus tôt cette semaine, il parlait de 1 % des classes qui étaient fermées au Québec. Ben, deux jours plus tard, on est rendu à 2 % des classes fermées au Québec.
Et on a beaucoup parlé du ton de M. Legault dans une précédente conférence de presse quand on a annoncé là, qu'on allait tomber en zone rouge. Philippe, moi, j'ai l'impression que, que les chiffres qu'ils ont et que les prévisions dont ils disposent donnent un portrait qui est assez inquiétant. OK, on va faire une petite pause. On va revenir avec les commentaires de Luc Ferrandez.